C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu 102.2.
Bonjour.
Bonsoir.
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 Bonsoir. C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi. Et bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce Canu Info. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2019. Il est 19h passé de 5 minutes. Et de quoi allons-nous parler ce soir?
Alors, eh bien, nous parlerons quoi? Eh bien, nous parlerons pompiers urgentistes.
Et de la stigmatisation des femmes voilées en France.
Ensuite, on fera un point sur l'offensive turque en Syrie.
Et puis, on fera une rubrique monde de merde autour du travail sur Amazon et sur la Coupe du Monde.
Ensuite, on ira faire un tour de Rouen et on parlera de l'incendie de Lubrizol.
Et de nouvelles tueries qui ont lieu au Burkina Faso.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Allez, on parle en bref des pompiers et des urgentistes parce que ça a été quand même pas mal relayé dans les médias. Donc les personnels hospitaliers, urgentistes et pompiers sont toujours en grève et ont fait entendre leur colère hier, mardi 15 octobre à Paris. Il y a eu beaucoup de pétards, de fumigènes, une énorme manif parce que le mépris du gouvernement continue depuis plusieurs mois comme il y a peu de propositions qui sont faites par le gouvernement, voire aucune des revendications légitimes qui sont prises en compte en termes d'embauche notamment nécessaire ou bien encore la reconnaissance pour les pompiers de métiers à risque, face à l'absence de réponse, la reconduction de la grève qui dure par endroit depuis fin juin, début juillet, se poursuit. Et par rapport à ce qui s'est passé dans la manif hier, place de la Nation, les flics ont bouclé les accès aux périphériques et aux rues menant à l'Assemblée nationale. Et les CRS, peu avant 18h, ont balancé bien sûr des gaz lacrymogènes pour disperser la manif. Sauf que les gens étaient vraiment déter. Et la plupart des manifestants ont forcé le barrage et se sont dirigés vers le périphérique. Parce que les gens, petit à petit, là, à force de manifester, ils en ont marre d'être pris pour des gonds. Des cons et pas entendus par le gouvernement. Et aussi, depuis le début de l'après-midi, il y a une partie des manifestantes qui attendaient de se rendre vers la place de la Concorde et devant l'Assemblée nationale. Et bien sûr, les flics les ont bloqués aussi. Mais voilà, petit point sur la manif d'hier.
Et ensuite, dans la rubrique mais pourquoi Lyon n'est pas une poubelle, il y a l'ancien procureur Jean-Michel Prêtre, qui est le procureur de Nice, qui avait affirmé que Geneviève Legay, vous vous souvenez, pendant les manifs gilets jaunes, là, c'était la personne qui... pendant un rassemblement, en tout cas à un moment où il se passait pas grand chose, un groupe de gens avait subi une charge des CRS. Elle avait trébuché sur un plomb en béton bousculé par les flics qui chargeaient à ce moment-là. Elle avait été hospitalisée pendant un long moment. Donc Jean-Michel Prêtre avait affirmé à ce moment-là que la manifestante n'avait pas été touchée par les forces de police. Voilà, en gros, il avait pendant tout le temps de la procédure, il avait vraiment largement soutenu. Et à un moment, il a même déclaré :« Bon bah oui, j'ai un peu arrangé la vérité pour soutenir le gouvernement. » Bon, il l'avait pas dit dans ces termes, mais ça revenait à ça. Voilà. Et ben du coup, il sera content d'avoir soutenu le gouvernement. Il a été, il passe de procureur à avocat général. Alors si vous, comme moi, vous y connaissez pas grand-chose en grade dans la justice, en fait le procureur c'est au-dessus et l'avocat général c'est en dessous. Donc il est rétrogradé. Bon bah voilà, il est rétrogradé à Lyon, hein, donc à la cour d'appel de Lyon.
On les aime tellement,
voilà,
la cour d'appel de Lyon.
C'est-à-dire que la cour d'appel de Lyon avait quand même jusqu'à présent très mauvaise réputation. Elle continuera sur sa mauvaise lancée et en tout cas un sous-fifre de plus dans cette cour d'appel.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Le CCIF, c'est le collectif contre l'islamophobie en France, qui a publié hier une interview de Fatima E, qui, vous vous rappelez, c'est la femme qui avait subi une agression verbale devant son fils le vendredi 11 octobre au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté par Julien Odoul et de l'extrême droite, et qui lui a demandé au nom de la République de se dévoiler. Et ben Fatima E, elle sature complètement de la médiatisation de cette affaire. Elle en témoigne dans cette interview. Et c'est pour ça que là, nous allons pas nous éterniser, puisqu'elle, elle sature de tout ça. Mais nous voulons ici apporter notre soutien aux femmes voilées qui subissent une stigmatisation des élus de la République, des médias et d'une grande part de la population. Et je voudrais vous lire la fin de l'interview, de l'entretien, avec, je la cite. « Aujourd'hui, j'ai une opinion négative de ce qu'on appelle la République. Et je trouve que le ministre de l'Éducation a dit quelque chose de honteux lorsqu'il a parlé du voile. J'ai parlé avec la maman d'une autre enfant qui participait à cette sortie scolaire, et elle m'a parlé de son fils en disant que depuis ce week-end, il a la rage et la haine. » Je lui ai répondu que c'est exactement ce que veut l'élu du RN, du Rassemblement National. Il vient de détruire tout un travail que je faisais indirectement auprès de cette classe, dont les élèves d'origine immigrée étaient parfois dans une attitude de penser que la France était contre eux et qu'ils sont rejetés. Et moi, j'ai toujours argumenté contre ce discours. J'essayais tout le temps de les rassurer. Quand on est sorti du conseil régional, ils sont venus vers moi pour me dire « Tu vois, on te l'avait dit, ils ne nous aiment pas. » Et là, bah, je ne pouvais même plus parler. Les enfants sont venus là pour apprendre. Qu'ont-il appris ?
Et alors, pareil, on continue un peu dans cette veine-là. C'est lors d'une visite scolaire d'une caserne de pompiers où une femme qui s'est vue refuser l'entrée de la caserne car elle portait le voile. Alors, c'est pas une grosse info, hein. Le pompier plaide la maladresse car la personne ayant prononcé l'interdit pensait que cela était effectivement hors la loi. Bref, une rencontre par la suite a été faite entre les deux personnes, la femme et le pompier ayant interdit. Et il semblerait que l'affaire s'arrête là. Bref, ça s'est arrangé. Heureusement que, enfin voilà, c'est cool, mais sans que ça ce soit une grosse info, cet événement là comme celui du conseil municipal vient démontrer à quel point les paroles calculatrices des politiques qui, par souci soit de scrutin soit pour faire passer une loi, mais très rarement en tout cas dans l'intérêt commun, que ces paroles ont un impact direct sur les personnes qu'ils prennent pour cible. Ils ne peuvent pas ignorer, et Blanquer ne peut pas ignorer, que quand il déclare que le port du voile en sortie scolaire n'est certes pas illégal parce qu'aucune loi n'interdit ça, mais n'est pas souhaitable, il sait qu'une partie de la population paiera directement de ces basses tactiques politiciennes, que des comportements abjects et racistes se libèrent sous l'effet de ces propos, et ça, ils ne peuvent absolument pas l'ignorer.
Canu Info. Du mercredi.
Eh bien, on va faire un tour du côté de la Syrie et forcément, ça se passe à la frontière avec la Turquie. Alors, pour éviter un massacre, les FDS, dont font partie le PYD, le parti qui gère en ce moment le nord de la Syrie, et leurs branches armées YPG et YPJ, en gros, ce sont les Kurdes, ainsi que des groupes armés arabes de la région, ont signé un accord avec le gouvernement syrien de Bachar el-Assad. Accord qui leur accorde le soutien de l'armée loyaliste syrienne, les SAA, à la condition que, je cite l'accord, les FDS confirment qu'elles sont prêtes à préserver l'unité territoriale de la République arabe syrienne et qu'elles le font sous le drapeau de la République arabe syrienne. Les FDS se tiendront aux côtés de la SAA pour faire face aux menaces turques contre la terre syrienne sous la direction du président Bachar el-Assad. Donc voilà, on ne va pas s'éterniser et là sur cet accord. On imagine bien que cet accord a été signé avec le couteau sous la gorge. Mais pour bien comprendre, à l'heure actuelle, les forces armées de Bachar el-Assad sont arrivées à Manjib, dans le nord de la Syrie, et elles devront s'étendre sur toute la région frontalière. Région qui était jusqu'à présent contrôlée par le PYD et sa branche armée YPG et YPJ et les FDS. Voilà.
En gros, ce que tu veux dire, que ça va être l'occasion pour eux de récupérer les terres que les Kurdes syriens se sont appropriées depuis plusieurs années et que ils vont faire front contre la Turquie, mais aussi ils vont par la suite empêcher les Kurdes de rester sur un territoire qui était devenu plutôt autonome.
En tout cas, de pouvoir. En tout cas, il y a priori, donc ça on verra, mais a priori, il y a peu de chances qu'ils aient le droit de continuer à l'administrer comme ils l'administraient aujourd'hui, quoi. Alors, on ne peut pas comprendre cet accord signé, comme je le disais tout à l'heure, avec le couteau sous la gorge, sans s'imaginer la différence de puissance qui sépare l'armée turque, qui fait partie de l'OTAN, avec la puissance de feu des FDS. D'un côté, du côté de la Turquie, on a des blindés modernes, des armes de pointe et des avions. De l'autre, on a tout au plus des mitrailleuses lourdes installées sur des pick-up protégées par d'énormes tôles d'acier. À cela s'ajoute, du côté de la Turquie, tout un tas de milices formées et équipées par Ankara, ayant une soif de vengeance contre les Kurdes, car une partie habitait la région, et pour certains, de manière réelle et parfois de manière supposée, ont été suspectés d'entretenir des liens avec Daesh et ont été chassés de la région. On compte aujourd'hui plus d'une centaine de morts, côté civil et combattants faisant face à la Turquie. Il se dit que la Turquie et leurs milices font face à une plus forte résistance qu'imaginée. La Russie semble pouvoir tirer profit de la situation en jouant sur tous les tableaux. D'un côté, en tant que fidèle soutien à Bachar el-Assad depuis le début du conflit, elle continue de soutenir militairement le régime et donc le fait que le régime loyaliste de Bachar aille se positionner au nord du pays. D'un autre, elle met un veto au Conseil de l'Union de l'ONU sur de possibles sanctions contre la Turquie suite à cette invasion.
Et la double marionnette.
C'est ça. Le tout en invitant Erdogan à venir discuter en Russie, invitation qui semble a priori acceptée. Bref, c'est le bordel, c'est la guerre. La Russie semble tirer un peu son épingle du jeu de tous les côtés. En tout cas, l'avenir du Rojava est largement compromis. Il y a peu de chances que le gouvernement syrien, comme tu le disais tout à l'heure, laisse le champ libre au PYD pour gouverner la région. En attendant, on continue de suivre tout ça de près. Les gens continuent à se battre là-bas. Il y a une manif à Lyon qui aura lieu samedi 19 octobre, c'est samedi prochain, à 15h30 par Place Bellecour. Il y en a eu une la semaine dernière. On espère vous y voir nombreux et nombreuses.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Allez, une petite rubrique monde de merde là sur deux nouvelles concernant le travail. Le travail tue. Donc pour commencer, je voudrais vous parler d'Amazon, encore une fois. Amazon où les méthodes en ressources humaines de cette multinationale. Donc, selon des documents obtenus par le site américain, dont j'ai oublié le nom, Amazon dispose d'un système algorithmique qui surveille et peut licencier automatiquement les ouvriers d'entrepôt s'ils ne sont pas assez productifs. Donc avant, il y avait ce qu'on appelait des contre-maîtres, et maintenant les contre-maîtres sont remplacés par des robots. Outre le droit du travail, on prend un sacré coup quand même. Et ce procédé semble pourtant être utilisé depuis plusieurs années. Et entre août 2017 et septembre 2018, autour de 300 personnes ont été licenciées selon ce processus automatisé. C'est pas rien, hein, 300 personnes. Des robots surveillent la productivité de chacune. Et si les quotas ne sont pas atteints, des avertissements sont automatiquement générés, suivis de licenciements également automatiquement généré. Amazon affirme cependant que les employés peuvent faire appel d'une décision automatisée. Et
ah, vous voyez, nous voilà rassurés.
Le droit d'appel, on est rassurés, c'est toujours du foutage de gueule, parce que qui fait appel souvent ? Qui se sent légitime de faire appel face à une décision qui est prise par sa hiérarchie ? En vrai, c'est souvent des syndicalistes, et quand on est accompagné par des syndicats qu'on se sent de faire ça, et aussi dans Amazon, c'est beaucoup de travailleurs précaires qui y sont et qui sont pas entourés de syndicats. Donc c'est vraiment du foutage de gueule quand ils disent ça.
C'est ça, et en plus il faut quand même bien s'imaginer que ce que tu dis, c'est que c'est vraiment ça fait partie des boulots les pires, je pense, qui existent. Et du coup, faire appel, ça voulait, enfin, je pense, d'un certain côté, ça voulait dire se battre pour ce boulot. Donc je pense qu'il y a aussi un moment où je pense que les gens, quand ils reçoivent un truc de licenciement, c'est sûr qu'ils sont pas contents, mais je pense qu'il y a un truc de trouver là-dedans la force de prouver que l'entreprise a tort sur un job où après tu te dis, en fait, derrière, après, je dois retrouver un job de merde. Je pense que c'est vraiment, vraiment compliqué.
Tout à fait. Et depuis 2013 quand même, il y a une contestation générale dans différents pays du monde qui est en cours contre Amazon, parce qu'il y a énormément d'employés aussi qui réclament des meilleures conditions de travail ainsi que des augmentations de rémunération. Redisons-le très concrètement, c'est des personnes qui travaillent dans des entrepôts à charrier des colis de toutes sortes de matériel. Et en 2019, le géant américain a été une cible de l'indignation des gilets jaunes aussi en France. C'est une firme qui a été attaquée. Et récemment, dans les cadres de la semaine européenne d'action contre l'impunité des multinationales, il y a Attac qui avait organisé une manifestation contre Amazon. Donc il y a des choses aussi qui s'organisent. Et aussi, ces derniers jours, puisque les plus forts comme eux n'ont pas de honte, il y avait le livre Ruin by Design qui dénonce les conditions de travail de merde dans les entrepôts qui était sorti, et là qui est sorti en poche, et bien évidemment il est en vente sur Amazon. Donc concrètement, si on achète ce livre sur Amazon, ça veut dire qu'on fabrique l'exploitation de la personne qui taffe. Cette personne, elle va le mettre en colis, mais c'est un livre pour la soutenir dans ses conditions de travail de merde. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont quand même assez vertigineuses. Et bien sûr, Amazon a tout de même tenu à réagir. Et ils disent qu'ils proposent... qui bien sûr, les travailleurs là-bas ont des syndicats qui incitent les employés à demander et que leur taux de rémunération global et leurs avantages sociaux et leur environnement de travail sont tout à fait décents. Bref, ils ont fait toute une déclaration, c'est de la langue de bois de commerciaux aguerris. Et bien sûr que c'est compliqué de prendre en compte ce discours qui est très malhonnête. Et y a, pour dire, pour finir, qu'il y a des luttes, notamment vers Nantes, contre l'implantation d'énormes entrepôts Amazon. Et je peux que vous conseiller d'aller voir l'article paru là tout à l'heure sur Reporter, recensant les luttes contre les grands projets inutiles en France.
Et a priori, alors je sais pas exactement dans les trucs administratifs là où ça en est, mais il devrait y avoir, Amazon a le projet de s'implanter à côté de Saint-Exupéry, à côté de l'aéroport. Il y a eu un premier revers d'Alabarde de diverses associations de riverains qui voulaient faire annuler le permis de construire en mai de l'année dernière. Ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon. Voilà, affaire à suivre, mais Amazon a pour but de faire un entrepôt de, hop, je sais plus exactement, ah si voilà, 160 000 mètres carrés.
Mais moi ce que je me demande, mais ça serait à se renseigner, on vous dira sur un prochain Canu Info, c'est peut-être parce que à Nantes ça marche pas trop, ils essaient de l'implanter à côté de Lyon, ou c'est deux projets différents.
C'est que moi je pense à mon avis que c'est dans leur truc de logistique, c'est que c'est pas impossible que ce soit deux projets différents, ouais, qui veuillent en avoir deux partout pour que les gens puissent recevoir leur colis le plus rapidement possible. Et voilà.
Et pour continuer dans cette rubrique monde de merde du travail, des centaines de travailleurs meurent chaque année sur les chantiers de la Coupe du Monde de foot. Vous aimez le ballon rond, les matchs en terrasse avec les amis, ça vous fait triper. Il y a énormément de gens comme ça. Et sauf que le Qatar là, s'applique à construire rapidement des stades, des routes et des hôtels qui accueilleront la compétition de Coupe du Monde 2022. Et le pays a vu sa population de travailleurs migrants atteindre 1,9 million d'habitantes. Et ce projet pharaonique nécessite une main-d'œuvre de centaines de milliers d'ouvriers. Il n'y a pas qu'au Qatar hein, que ça s'est passé. Hein. Chaque chantier de la Coupe du Monde amène beaucoup de travailleurs migrants à venir bosser dans des conditions de travail de merde. C'est pas le problème de bosser, c'est des conditions de travail qui sont souvent absolument inacceptables. Et c'est pas du tout qu'au Qatar. Là, il s'avère que la prochaine, c'est au Qatar, donc on parle du Qatar, mais c'est à chaque fois beaucoup de mêmes problèmes. Même problème. Et du coup, il y a une enquête qui est sortie là cette semaine par le Guardian, qui est un quotidien anglais. Et donc, entre 2012 et 2018, sur les chantiers au Qatar pour accueillir donc la Coupe du Monde, les travailleurs seraient près de 2700 à avoir perdu la vie. La plupart âgés entre 25 ans et 35 ans. Et la plupart de ces morts sont considérées comme naturelles. Donc, est-ce qu'on meurt naturellement entre 25 et 35 ans ?
De manière aussi massive, dans un rayon aussi... Non.
Ouais. Et ben c'est ce rapport donc, qui avait été publié. Ça fait que les Nations Unies appellent les autorités de l'Émirat à les protéger contre la chaleur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est surtout ça, c'est que c'est des centaines de milliers d'ouvriers qui sont exposés à des températures supérieures à 45 degrés Celsius dans la journée et pendant 10 heures par jour. Et ces conditions ont, d'après des cardiologues, un lien direct avec leur mort, puisque en fait, c'est des températures trop élevées pour travailler physiquement avec des labeurs importantes, et que 10 heures, c'est beaucoup trop, et qu'ils en appellent, ils en appelleraient à aménager, et qu'avec des conditions pareilles, le corps physiquement, il peut tenir 5 heures. Mais pas 10 heures. Et du coup, quand des médecins disent ça, c'est-à-dire que je pense que déjà, quand tu travailles 5 heures à plus de 45 degrés, bah, je pense que tu as des petits problèmes de santé derrière. Donc, qu'eux, ils limitent déjà, ça veut dire que c'est quand même chaud. Et le problème, c'est que la plupart des travailleurs morts ne sont en général soumis à aucune autopsie. Et entre 2012 et 2017, c'est 1025 Népalais qui ont péri, dont 676 de crise cardiaque ou d'insuffisance respiratoire. Et les Indiens sont 1678 à avoir perdu la vie entre 2012 et août 2018. Ce qui fait du monde.
Ce qui en fait, je pense, la Coupe du Monde la plus, pour l'instant, la plus meurtrière de ces, 10, 20 dernières années.
Radio Canu. 102.2.
Rebelle des radios.
Canu Info.
Et on va reparler de Lubrizol. Il y a deux semaines, on avait parlé là des gens du voyage qui n'avaient pas été pris en compte pendant l'incendie, et qu'il y avait des mesures qui avaient été mises en place pour la population de Rouen, sauf pour elle et eux qui habitent juste contre le mur de Lubrizol. Et du coup, ils dénoncent maintenant la façon dont ils sont traités par la métropole de Rouen. Et en plus, il y a de la moyante qui a été retrouvée sur leur aire d'accueil, donc ça veut dire l'endroit où ils vivent. Et donc, cette aire, pour rappel, accueille 70 personnes la nuit. Elle est située donc à quelques centaines de mètres du site Seveso. Hein, on ne parle pas de quelques kilomètres, etc. Et aucune mesure de protection n'avait été prise au moment de l'incendie. Et depuis, bah, y a quand même un mouvement de solidarité qui s'est constitué, regroupant deux collectifs de gens du voyage, des associations et des juristes, pour un peu essayer de suivre cette affaire. C'est pour ça qu'on va aussi, nous, essayer de la suivre. Et pour redire un peu ce qu'on avait dit, c'est que malgré le classement au risque du site, il n'y a aucun local de confinement pour eux, alors qu'il y en a pour la population autour. Et ce qui est plus récent, c'est que le terrain n'a même pas été nettoyé suite à l'incendie. Donc une plainte contre X avait été déposée le 2 octobre pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de porter secours. Et il y a eu un courrier adressé ensuite le 7 octobre à la métropole Rouen-Normandie. Et ses habitants demandent de s'éloigner le plus vite possible de cet emplacement. Et les travaux de déblaiement ont commencé et des produits toxiques sont sans doute en train d'être remués. Et ça s'est passé vendredi. Sauf que, ils interviennent, sauf qu'ils évacuent pas les gens. Et c'est plein de poussières qui sont dans l'air. Et pour rappeler, l'amiante, puisqu'il s'est prouvé qu'il y a de l'amiante dessus, si on remue trop les poussières, ça peut être vraiment très très dangereux pour les poumons et la plèvre. Donc les gens sont inquiets sur les émanations produites sur leur terrain. Et donc, ces habitantes ont décidé de dénoncer leurs conditions de vie éprouvantes. Il y a eu notamment des articles pour dire que vendredi, là, c'était absolument intenable. Pendant qu'ils remuaient, là, c'était comme si des bouteilles de gaz étaient ouvertes. Et voilà. Et pour redire quand même, c'est qu'à cause de ces conditions d'accueil, qui sont généralisées sur le territoire, les gens du voyage ont une espérance de vie de 15 ans inférieure en moyenne à celle de l'ensemble de la population française. Ce qui veut dire que c'est pas que après un incendie, c'est que globalement, vivre à côté d'usines Seveso, c'est pas très bon pour la santé.
Et du coup, on continue sur les suites de cet incendie. Et là, du coup, on va donc 500 mètres encore plus près, puisqu'on va parler des pompiers qui sont intervenus. Une dizaine d'entre eux, des pompiers, ont des bilans sanguins qui présentent des résultats anormaux pour le foie, des niveaux de, alors là je cite, transaminase, c'est des enzymes présentes dans les cellules du foie, et ces résultats sont trois fois supérieurs à la normale. Alors pour l'instant, le lien avec l'incendie n'est pas établi et il faudra d'autres analyses pour voir s'il y a une évolution. Il se peut par exemple que les taux redeviennent à l'heure normale car les prises de sang ont été faites 21 jours après l'intervention. Voilà, ça c'est, voilà, il y a beaucoup de communication là-dessus pour dire non, vous inquiétez pas, bon, les pompiers eux flippent, c'est normal. Mais pour un toxicologue pour qui c'est son métier, qui s'est exprimé dans Le Monde sur ses résultats, il dit, je cite, ces résultats ne sont pas bons. Le foie, comme les reins, c'est notre centre antipoison. Si les transaminases sont élevées, c'est que le foie a subi une agression. Donc, c'est pas pour lui, il dit d'après ses analyses, en fait, c'est pas une situation normale. On peut pas dire que c'est normal que les pompiers étaient exposés à des fumées. Ils doivent avoir ça dans le foie. Après, ça devrait se régler. Non, a priori, c'est quelque chose. C'est des résultats qui sont à prendre avec inquiétude et en tout cas qui vont nécessiter quand même plusieurs analyses. On imagine que les analyses vont être faites. Les pompiers risquent, en tout cas pour certains d'entre eux, de déposer plainte à la suite de ces résultats. On espère pour eux que ce soit juste une grosse frayeur. Voilà. Et à noter quand même que c'est les pompiers qui étaient certes 500 mètres plus près des fumées que les gens du voyage dont tu parlais tout à l'heure. Ils étaient plus près, ils étaient quand même équipés pour faire face à ce genre de fumée. Les gens du voyage, eux, 500 mètres plus loin, n'étaient équipés de rien du tout et on leur a juste demandé de se mettre dans une caravane. Bref, c'est moche ce qui s'est passé là-bas et on espère que tout ça n'aura pas trop d'incidence sur le futur.
Canu Info. Du mercredi.
Eh ben, on va parler maintenant de nouvelles tueries qui ont eu lieu au Burkina Faso, puisque 16 personnes qui priaient dans une mosquée ont été tuées lors d'une attaque. Et ça s'est passé vendredi soir. Et il y a ensuite, le jour d'après, un millier de personnes qui se sont rassemblées dans la capitale Ouagadougou pour dénoncer le terrorisme et la présence de bases militaires étrangères en Afrique. Donc on va revenir dans un petit moment là sur la manifestation, parce que c'est vraiment, vraiment important et chouette. Et je vais revenir d'abord sur l'attaque, donc pour vous en dire un peu plus, c'est que c'est des individus armés qui ont attaqué la grande mosquée de Salmoussi, qui est à une vingtaine de kilomètres de Gorom-Gorom, l'une des grandes villes du nord. Et ça s'est passé entre 19h et 20h, faisant au moins ce que je vous ai dit tout à l'heure, 16 morts. Cette tuerie, pour l'instant, n'a pas été revendiquée. Mais des mosquées et des imams au Burkina Faso ont par le passé été la cible d'attaques attribuées aux djihadistes par les autorités. Et aussi que, dans le contexte général, le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence, souvent attribuée à des groupes armés djihadistes, et dont certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres groupes de l'État islamique. Et juste pour donner un chiffre, c'est dans le nord dans le nord et dans l'est du Burkina, des attaques ont fait plus de 600 morts juste en 2015. Et du coup, c'est aussi pour cela qu'on a envie d'en parler. C'est que alors que en France des attentats sont surmédiatisés pour 2-3 morts, on parle quasiment peu de pays où les morts suite à des attentats sont nombreuses, et que 600 morts en une année, c'est hallucinant, et c'est vraiment beaucoup. Et ce qui a été important, c'est surtout ce qui s'est passé comme réaction dans la capitale Ouagadougou samedi, pour dénoncer le terrorisme et la présence de bases militaires étrangères en Afrique. Et ça, c'était à l'appel d'une dizaine d'organisations de la société civile à l'occasion des journées anti-impérialistes. Et ce qui a été scandé, c'est « Armée française et forces étrangères, on n'en veut pas ». Armée française hors du Burkina Faso et forces étrangères hors d'Afrique. C'est ça qui a été scandé par les participantes qui étaient réunies à la Bourse du Travail. C'est très clair, je trouve, ces slogans. C'est très clair, il faudrait que l'État français l'entende. Et sauf que il y a eu une interdiction de manifester en ville, bizarrement, ce jour-là. Ce qui n'a pas empêché les gens d'aller manifester quand même. Et le porte-parole des organisations civiles, Monsieur Korebe Ogo, a dénoncé ces puissances étrangères qui utilisent le terrorisme pour contrôler les immenses richesses de la région. Donc, puisque le terrorisme est devenu le prétexte idéal pour l'installation de bases militaires étrangères dans nos pays. Les armées françaises, américaines, canadiennes, allemandes et autres ont pris pied dans la sous-région pour, disent-elles, combattre le terrorisme. Et malgré cette présence massive des plus grandes armées du monde, les groupes terroristes continuent à sévir et montent même en puissance. Il faut donc se méfier de ces pyromanes nocturnes qui, dès le lever du jour, se transforment subitement en pompiers. C'est très bien dit. Donc voilà, les politiques impérialistes sont toujours là. Elles ont jamais arrêté d'être dans plein de pays d'Afrique, et elles se servent même de l'argument du terrorisme pour implanter des bases. Les bases militaires étrangères sont la perpétuation des politiques impérialistes. Et voilà. Pour dire, la France est présente concrètement au Burkina Faso avec 200 hommes des forces spéciales à Kambo-Ensin, qui est une banlieue de Ouagadougou, et elle intervient régulièrement dans le pays au titre de la force Barkhane, 4500 hommes au Sahel, dont on entend régulièrement parler dans les médias. Et ces dernières semaines, les militaires français déployés au Sahel ont multiplié les interventions au Burkina Faso. Donc c'est pas pour rien qu'il y a eu ces manifs, c'est très clair de pourquoi l'armée française est au Burkina. Et près de 500 000 personnes ont fui leur domicile dans le nord et l'est en raison des attaques donc terroristes, selon le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et donc, ce qui veut dire aussi que le Burkina, comme d'autres pays, est dans une crise humanitaire qui est en cours. Et sauf que c'est pas pour rien là qu'ils parlent des pompiers et des pyromanes.
Il est 19h39, bientôt 40, et ce Canu Info touche à sa fin.
On a été méga efficace.
Hein. On a été efficace, c'est ça. Vous laisser avec 20 minutes de bande continue. On rappelle le rendez-vous de samedi à 15h30, place Bellecour, pour manifester son soutien au peuple du Rojava et contre l'offensive turque qui s'y déroule en ce moment. Ensuite vous retrouverez Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes
et à qui on laisse le soin de faire un grand agenda militant. Donc nous on parle que de cette manif, mais il y a beaucoup de choses et beaucoup d'actions et manifs qui se passeront encore une fois cette semaine comme chaque semaine. On vous dit à la semaine prochaine.
C'est ça, au revoir, merci de nous avoir écouté.
Ciao.
Radio Canu,
c'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.